Pierre-Yves McSween est là, en chair et en os. Salut, Pierre-Yves.
En chair et en os.
Et en voix, surtout. Écoute, tu veux nous parler des 50 000 comptes piratés à l'Agence du revenu du Canada cet été.
Est-ce que je veux t'en parler ou on veut le souligner, Patrick, que est-ce qu'on est surpris? Tu sais, quand un gouvernement dit aux Canadiens et Canadiennes « Bonjour, notre force, c'est d'envoyer le chèque au plus vite. Il n'y aura aucun contrôle. Vous aurez votre chèque rapidement. »
Ouais.
Tout ce qu'on veut comme contrôle, c'est une attestation que vous affirmez que vous êtes honnête.
Mais en même temps, Pierre-Yves, séparons un peu les problèmes. Oui, c'est vrai qu'il y a manqué de balises, puis il y a manqué de pare-feu. Ça, on en a parlé souvent, toi et moi. Mais des comptes piratés, je veux dire, tout le monde s'est fait pirater de ce temps-là.
Oui, mais la différence. Et c'est là, je peux te conter une histoire, je vais te conter une fable.
Okay? Conte-moi une histoire.
Laissons faire l'ARC, excuse-moi, là. L'Agence du revenu, puis parlons d'une banque canadienne. Une banque canadienne, là, quand ça a des doutes sur un volume de transactions élevé dans certains types de comptes, qu'est-ce que ça fait? Ça met des contrôles détectifs. Je te donne un exemple. Si tu trouves qu'il y a un volume de prêt élevé chez un client, la banque peut prendre une initiative du genre écrire une lettre au client pour les remercier de faire affaire avec la Banque Royale, par exemple. Okay. Là, les clients reçoivent la lettre chez eux et disent « Hey, t'as une minute, là, je fais pas affaire avec toi pantoute. » Et c'est une façon de détecter les fraudes potentielles de façon déductive. Et donc, ce que je dis au gouvernement, c'est mon dossier, Patrick, là, moi, j'y vais pas souvent. Est-ce que tu y vas souvent sur mon dossier de l'ARC? Il y a plein de Canadiens qui avaient jamais ouvert le mon dossier, étant encore le format lettre, recevaient des courriels, peu importe. Mais mon dossier, ça vous donne des informations. Mais si quelqu'un va sur mon dossier, est-ce qu'on aurait pu, en contrôle compensatoire, avec une impression automatique, puis un timbre à une pièce, envoyer pour chaque personne qui fait une demande de PCU à son adresse originale sur mon dossier de l'année, tu sais, faire un envoi, dire « Ah, oh, vous avez demandé la PCU, bon, n'oubliez pas d'aller sur mon dossier, de mettre ça à jour. » Non. Donc, moi, j'étais allé sur mon dossier hier, puis là, il était marqué en gros « Aucune demande de PCU n'a été faite. » Non, je suis tout content, Patrick. Mais s'il y en avait une depuis une couple de mois, on m'aurait fraudé, mettons, 10 000.
Parce que tu n'aurais pas été averti.
J'aurais pas été averti. Fait que, Patrick, faisons un petit calcul ensemble pour le fun. 10 000 comptes. 10 000 piastres fois 50 000 comptes, ça donne 500 millions de dollars. Mettons que c'est juste 5 000, 250 millions de dollars de fraude. Et ça, t'as pas donné en plus, les gens t'es pas aidé. Là.
Eric, sur un déficit de 400 milliards, j'ai envie de te dire que c'est pas grand-chose.
T'as envie de me dire que c'est drôle, mais ça, là, tu parles juste des fraudeurs.
Ben oui.
On ne parle même pas de ceux qui l'ont reçu, qui n'en avaient pas besoin. Là. On parle juste des fraudeurs. On parle juste de ceux qui ont fraudé des citoyens. Maintenant, t'as les citoyens fraudeurs à ajouter et t'as tous ceux qui l'ont demandé parce qu'il y avait droit, mais qui disent, regarde, moi, j'ai 500 000 en banque, mais j'ai le droit, je vais le prendre. Alors, l'ensemble des Canadiens, tu sais, puis je veux pas te taper sur le clou, mais c'est une leçon. Et c'est aussi, Patrick, une leçon pour le revenu minimum garanti. Ça donne une idée de la réaction dans un laboratoire canadien, la réaction d'un contribuable qui se fait dire « Tu peux gagner l'équivalent de 24 000 sans travailler, alors quelle sera ta réaction? Et tu as le droit de gagner 1 000 par mois, que feras-tu sur ton travail à temps plein ou à temps partiel? » Et c'est une leçon. Ça serait difficile de faire confiance à l'humanité. Parce que l'humanité fait ce qu'elle peut, c'est-à-dire optimiser son cash par rapport à l'effort. On est tous comme ça.
Parle-moi de Snowflake, flocon de neige, le premier appel public à l'épargne.
Bon, je vais faire une autre comparaison, Patrick. La bourse, c'est comme l'amour. Quand tu entres en bourse, c'est comme un amour naissant. Il y a beaucoup de volatilité. Il y a des hauts, des bas. C'est l'excitation, c'est la flamme, c'est la bombe atomique. Tu comprends? Donc, il y a un pic. Et c'est pour ça que les gens qui ont vécu longtemps en amour sont habitués de voir les premiers appels publics à l'épargne faire un gros hit au début, mais après ça, se calmer. Alors, l'amour puis les placements, c'est pareil. Si tu veux jouer au casino pour avoir bien du fun, tu recommences l'amour naissant tout le temps et tu vis des IPO, des premiers appels publics à l'épargne. Mais si tu veux quelque chose de plus sécuritaire, voir un titre, savoir comment il évolue, ça veut dire que tu veux savoir comment ta relation amoureuse va être plus stable, tu attends après pour voir qu'est-ce qu'a l'air ta relation. Mais les titres, c'est pareil. Donc, les premiers jours, comme Snowflake hier, est venu en bourse, la valeur de l'action a doublé la valeur d'échange initiale, c'est-à-dire que tout le monde s'est emballé parce qu'il y a plein de monde qui ont dit « Oh, un nouveau titre, c'est comme une nouvelle personne qui apparaît sur Tinder, elle est beaucoup en demande, tu comprends? » C'est la même raison. Là, je fais comme si je connaissais ça, j'ai jamais été là-dessus, mais quand même, mais ça te donne une idée, on est là. Et là, le jour après, oh, baisse de 11%. Tu vois, l'amour se calme. Je dis pas qu'un IPO ou un premier appel public à l'épargne, ça peut pas donner un titre intéressant. On a vu des exemples passés. Par exemple, Facebook, au début, avait perdu 50% de sa valeur dans les premiers mois, mais par la suite, est devenu un titre intéressant à long terme. Mais Snowflake, ça fait du cloud. Alors, du cloud ou de l'info nuagique, tu as des compétiteurs importants qui peuvent se réveiller.
Le marché est assez saturé.
Ben, il n'est pas saturé, Patrick, parce qu'il y a de plus en plus de demandes. Mais tu as Microsoft, Google, Apple qui est là-dedans. Donc, tu as des gros joueurs qui disent, si Snowflake, ton offre est intéressante, on va se partir un spin-off, on va appeler ça Flocon de neige 2, puis on va donner exactement le même
produit. On va te cannibaliser.
Mais on va être capable de te détruire parce qu'on va avoir la force de frappe, un peu comme je te parlais hier. Spotify, c'est bien beau être d'un premier, mais il y a Apple qui offre Apple One, qui est une super offre, qui est globale, puis qui peut mettre la force de frappe d'Apple avec. C'est beau, hein?
Hey, parle-moi d'une question que tu te fais souvent poser, Pierre-Yves, oui. C'est-à-dire, connais-tu un bon conseiller financier?
Là, c'est parce que, Patrick, il y a beaucoup de gens qui ont des bonnes intentions. Puis ça, je trouve ça le fun. Ils me disent, on veut commencer à placer, on veut de l'argent. T'as-tu un bon conseiller? Puis là, je dis, écoute, je veux pas vous enlever du mérite à quiconque qui fait du conseil, mais quand vous commencez, votre plus grand allié, c'est pas votre conseiller, c'est votre capacité d'épargne. Donc, au début, c'est toujours pareil. Tu arrives en institution financière, puis le conseiller qu'on va te donner, c'est le prochain sur la liste, et ça arrive que la personne t'a fait ton profil d'investisseur, puis là, tu arrives dans 5 ou 7 profils, puis dépendant du profil qui sort, la banque ou l'institution financière lui donne un portefeuille prédéfini. Dans le fond, il lui dit, si ton client a un risque très élevé, donne-lui tel prorata, va-lui tel fonds, et voilà. Donc, ton conseiller, il fait une association à ton profil, puis des titres à acheter. Il n'est pas en train de regarder sa bourse comme dans Wall Street, le film avec Michael Douglas, comme s'il optimisait ton portefeuille. C'est pas ça du placement à long terme. Donc, peu importe, c'est qu'il faut, le but, là, c'est de se monter un portefeuille qui monte à 50, 60, 100 000. Quand vous êtes rendu là, là, vous êtes un client qui peut commencer à faire des placements de 5, 10 000, diversifier, puis là, aller dans le marché des actions. Puis là, avoir un conseiller où vous parlez des titres. Mais avant ça, je peux pas vous faire croire que d'une institution financière à l'autre, il y aura pas une si grande différence. C'est comme un robot conseiller. Un robot conseiller, ça prend ton profil d'investisseur. Puis là, ça dit, ah, selon ton profil, t'es 80% actions, 20% titres à revenu fixe. Et si la bourse plante, comme ça a eu lieu dans les derniers mois, ben, ça veut dire que les actions ont baissé. Mais pour garder une pondération 80-20, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont te racheter des actions et diminuer des revenus fixes si les actions ont baissé. Et donc, si le marché remonte après ça, ton portefeuille va remonter parce que tu vas avoir racheté plus d'actions. Donc, le robot, tout ce qu'il fait, c'est repondérer ton portefeuille 80-20 tout le temps ou 50-50, dépendant de ton profil d'investisseur. Et donc, il y a beaucoup de marketing alentour du placement. Mais quand vous commencez, Patrick, ce qu'il faut retenir, c'est une chose. C'est que ta plus grande force de frappe, c'est ton montant que tu mets dans l'épargne. Et au moment que tu as un montant intéressant, tu deviens intéressant au niveau du rendement et surtout intéressant au niveau du client, de la clientèle.
Parole de sagesse.
Ah oui. Tu auras de la planification financière, fiscale après. Tu auras des assurances, tu auras plein d'affaires. Là, tu auras un conseil global. Mais quand tu as 5 000 $ d'épargne, ton plus grand allié, c'est pas ton conseiller, c'est toi.
Merci, Pierre-Yves.
Salut.
Juste vous rappeler qu'on finit l'émission avec Jean-René Dufort. Et après la pause, Raphaël Jacob s'en vient.